France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle Joyce DiDonato et je suis née en Kansas City, il y a beaucoup d'ans, et je suis une chanteuse.
Bonjour, Joyce DiDonato. Merci beaucoup de nous accorder ce temps. Il y a 20 ans, vous chantiez le Barbier de Séville à Paris.
C'est
dans
vrai.
Dans la mise en scène
c'est
de
vrai.
Colin Serrault, pile 20 ans.
Oh.
Et hier soir, ici même, là où on se trouve, à Covent Garden, au Royal Opera House, vous avez donné la première d'une nouvelle production de Théodora de Handel. Alors voilà, le temps... Vol. Vous ne cessez d'imaginer des projets toujours plus engagés, d'apprendre des nouveaux rôles aussi. Alors, bravo tout d'abord pour cette Irène hier.
Merci.
Musicalement, il y a toujours chez Handel ces lignes, cette liberté, ces moments même où l'orchestre s'arrête, où vous êtes seule à pouvoir prendre vraiment votre temps et jouer, ornementer. C'est une musique qui se renouvelle toujours.
Oui. This role assumption of Irène,
ce rôle d'Irène dans Théodora a été un vrai cadeau pour moi. Et c'est un défi aussi à relever, parce que l'on sait, en tout cas le monde moderne, pour la plupart d'entre nous aujourd'hui, on connaît Théodora grâce à la production de Glen Burnes avec Lorraine Hunt et William Christie. En tant que chanteur d'opéra, l'un des défis à relever, c'est qu'on a tout le temps l'impression d'être hanté par les immenses interprètes qui nous ont précédés. Je pense que suffisamment de temps s'est écoulé et que ce rôle est arrivé à un moment de ma carrière où j'ai bien conscience qu'il est inutile d'essayer de rendre hommage ou d'imiter Lorraine Hunt, qui était une artiste exceptionnelle. Et ça fonctionnait si bien aussi, principalement parce qu'elle était étroitement liée à l'amour, l'esprit de cette œuvre qui l'habitait littéralement. Et j'ai eu vraiment la sensation que le moment était venu de faire revivre cette œuvre. Je l'ai rencontrée pour la première fois en décembre dernier, en tournée avec Il Pomodoro et Maxime Emelianchev. On a fait un enregistrement également en direct. Et finalement, c'est un voyage depuis ce moment-là jusqu'à arriver ici à Londres qui m'a montré à quel point c'est un chef-d'œuvre. Parce que ça n'est pas du Handel typique, très spectaculaire, où on danse. Finalement, c'est plus un travail en introspection qui va de plus en plus loin dans cette introspection, qui vous attire vers des croyances profondes, vers l'humanité profonde, les cœurs. Et finalement, tous les personnages, à l'exception de Valence, le méchant, tous les personnages sont à la recherche d'une introspection. Ils vont à l'intérieur et Handel capture ça de manière absolument extraordinaire. Et donc, par exemple, Harry, sur le podium, sait parfaitement comment laisser une sobriété à l'œuvre, une simplicité Mais tout en répondant à son rythme et à l'introspection que font tous les personnages. Et le seul moment où j'ai une sorte de enfin, c'est une cadenza, c'est « Seigneur, à toi chaque nuit et jour, Lord to thee we sing and pray », c'est vraiment le moment de désespoir absolu où Irène cherche des réponses. Et la seule chose qu'elle trouve à faire, c'est chanter, prier. Et la plupart des ornements, parce que c'est un oratorio, donc encore une fois, c'est une œuvre tellement introspective qu'il y a peu de possibilités de faire des choses très spectaculaires dans les ornements comme on pourrait le faire avec Ariodante ou Agrippine. Mais là, dans ce cas précis, au moment de cette cadenza, j'ai vraiment ressenti le besoin d'aller beaucoup plus en profondeur. Et finalement, c'est un moment très fort. Elle est là, sur scène, avec quatre personnes à ses côtés, et c'est ce que j'ai toujours ressenti. Toute ma vie, toute ma carrière, j'ai su qu'unir nos voix en chanson, c'était thérapeutique et salvateur.
Nous sommes à Covent Garden, dans un petit salon royal, ravissant, mais c'est vrai qu'on entend sans doute derrière nous l'orchestre qui est là et qui travaille aujourd'hui. Vous parliez de ce moment-là où se pose la question, cette question sans réponse, c'est aussi la première plage de votre disque Eden.
Oui.
Qui est un disque qui est un projet très construit, à la fois construit dans le programme du disque, et puis également, c'est une tournée, mais c'est aussi un projet pédagogique. De plus en plus, on a le sentiment, les projets les uns après les autres sont avec une véritable idée d'essayer le plus possible de parler à l'auditeur, de l'emmener pour défendre une cause. Ici, c'est beaucoup l'environnement, la nature qui est pour vous la clé. Une nature, vous êtes ici pendant des semaines à Londres, vous la trouvez quelque part un peu, vous vous promenez dans les parcs?
Oui, un peu, parce que c'est beaucoup de gris. It's quite grey. I do love that we're speaking at the beginning of
February. Ce qui me plaît beaucoup, c'est que là, on est au début du mois de février, et donc le mois de janvier, qui est très rude, est enfin derrière nous. Mais vous savez, on vit aussi une époque où, de mon point de vue, tout semble chaotique et renversé. Et finalement, les choses auxquelles on avait l'habitude de s'accrocher sont plus dures à trouver, ces ancrages dans nos vies, à l'exception de la nature. La nature n'a aucune conscience de la pandémie, des annulations, des tests, des masques. La nature, elle, continue à faire ce qu'elle a l'habitude de faire. Et une des choses auxquelles j'ai longuement pensé au cours de ce projet, c'est qu'il semble y avoir une idée générale quand on parle de la planète, quand on parle du climat, quand on parle de la nature. Et quand on parle de l'humanité, on part un peu du principe que ce sont des choses qui sont dissociées, qui sont séparées. Et c'est ça que j'essaye d'explorer dans ce projet, c'est que la nature, c'est nous, tout autant que les arbres, que les nuages, que la brume, là, à Londres, et que les bulbes et les bourgeons qui nous promettent des fleurs d'ici peu.
We are also that.
Nous, on est tout ça aussi. On n'est pas des bâtiments en béton. On n'est pas les puces de nos téléphones, bien qu'on commence à avoir l'impression que nos téléphones fassent partie de nous. On est de l'hydrogène, on est du carbone, on est de l'oxygène. Et l'une des choses à laquelle j'ai vraiment aspiré ces deux dernières années, dont je n'ai pas toujours eu la possibilité, c'était de marcher dans la nature. C'était me lever chaque matin et observer autour de moi, me dire « Tiens, le soleil se lève un peu plus bas sur l'horizon ce matin parce que je me poste tous les jours au même endroit. » Et donc, je ne suis pas tous les jours dans une ville différente, tous les trois jours dans une ville différente. Et puis, j'ai pu regarder le cycle de la lune au-dessus de ma maison. Et ça a été un véritable cadeau pour moi de pouvoir reconnaître que c'est aussi cette langue que je parle. Simplement, je l'avais oubliée.
C'est finalement ces mois de confinement qui vous ont permis de vous rendre compte. C'est la pandémie et le moment où tout s'est arrêté qui vous a permis de vous reconnecter avec la nature.
Oui.
Vous étiez où à ce moment-là ?
J'étais en Espagne. J'avais quitté New York. Par le dernier vol, le dernier vol à quitter les États-Unis, parce que j'ai une maison en Espagne, et la décision a été très difficile à prendre au mois de mars, il y a maintenant 2 ans de cela. L'Espagne, c'était vraiment le point chaud de la planète à ce moment-là. Je trépignais un peu, mais j'étais un peu aussi sceptique à l'idée d'aller dans cette zone particulièrement chaude, mais on avait prévu de rester aux États-Unis et simplement un matin, je me suis réveillée, je me suis dit non, c'est notre dernière chance, il faut qu'on parte parce qu'on voudra être en pleine nature. Alors évidemment, j'étais loin de m'imaginer qu'on allait en avoir besoin pendant aussi longtemps, mais je pense que c'était la bonne décision et ça a été une véritable chance parce que le silence qui s'est abattu sur la planète, j'ai pu vraiment en profiter à ciel ouvert. Il fragile nel suo stimo, amoroso sarà rosa, rotti testi tra crocini, lampi già non i vestini. I cuscini di soli soli, in Dio l'immensa prune, i cuscini di soli soli, in Dio l'immensa tra gli orrori spuntar fiori o bella pure campo fior che sol fa primavera e dell'ordine primiera Quand vous faites comme ça une nouvelle production, où vous passez plusieurs semaines, évidemment, dans une grande ville, j'imagine qu'on a envie après de se retrouver chez soi, peut-être un peu au calme. Chez vous, alors, Joyce DiDonato, où est-ce que c'est ? C'est en Espagne, c'est à New York, c'est à Kansas City, c'est où votre maison ? Techniquement parlant, en ce moment, ma maison, c'est en Espagne. Mais ça a toujours été très important pour moi parce que ma vie d'adulte, finalement, je l'ai passée sur la route. Ça a toujours été important de trouver un moyen pour moi de me sentir à la maison partout où j'allais. Et j'ai bien conscience, surtout après ces deux dernières années, que c'est vraiment très apaisant et magnifique de s'enraciner finalement quelque part. Mais d'un point de vue émotionnel, sur le plan mental, ça a été très important pour moi de m'autoriser à me sentir vraiment chez moi partout. Et finalement, ça signifie changer un peu sa définition de la place qu'on a sur cette terre, finalement. Ceci étant dit, la beauté, la valeur de rester en un même lieu a vraiment eu de l'importance pour moi.
Vous parlez de vos racines. Vos racines, elles sont à Kansas City ou même à Prairie Village.
Oui.
Le Kansas est un État au milieu des États-Unis, un État où il n'y a pas de mer, il n'y a pas d'eau, un État vraiment la terre et la terre, c'est là que vous avez vos racines. Vous y avez encore de la famille, j'imagine. Vous avez une grande fratrie, vous êtes beaucoup de frères et sœurs. La sixième de 7 enfants.
Oui.
Si jamais vous revenez en arrière, comment vous vous souvenez de cette enfance à Prairie Village? Comment c'était la vie de famille?
It's quite emotional to have you
Écoutez,
bring
ça
that
me touche
up
beaucoup
now,
que vous parliez de ça maintenant,
so far away
parce que ça me paraît si loin avec tout ce qu'on vient de vivre et de traverser.
Thank you,
because Donc,
it's
merci.
Un bel souvenir. It's very interesting to me. I had a very
Moi, j'ai eu une enfance extrêmement simple.
I went to Catholic school.
Je suis allée à l'école catholique. J'ai grandi dans une famille très catholique. Je suis allée à l'école catholique jusqu'à l'âge de 18 ans. On était dans une banlieue. Les banlieues américaines classiques qu'on voit à la télé. On allait à pied à l'école, on allait à pied au centre commercial. Une enfance très simple, où je me sentais en sécurité.
And it was also, I realize
Mais aussi
now, looking
une
back
enfance,
on it,
maintenant que j'y repense,
I always had the sensation
pendant laquelle j'avais toujours l'impression que la vie ne se limitait pas à ce que j'en voyais.
Norman Rockwell existence.
Cette existence un peu dans un décor de Norman Rockwell. La musique vibrait à l'intérieur de moi. Et c'est là que je pouvais me canaliser.
Dès toute petite, la musique était déjà importante.
Yes, oui. And my father was the church choir director.
Mon père il dirigeait la chorale de l'église. Il travaillait de la maison. Il avait toujours la radio allumée sur la chaîne de musique classique. Et lorsque mes parents organisaient un cocktail, on écoutait de la musique de big band. Alors j'ai aussi grandi avec ça. Mon frère, lui, était au sous-sol en train d'écouter Deep Purple et AC/DC, beaucoup trop fort au goût de mes parents. Et mes sœurs, elles, étaient à l'étage et écoutaient des vinyles de Jesus Christ Superstar et de Barbara Streisand.
Very dramatically, so I'm saying. Oh, my dream role. I'm just gonna vicariously
C'est le rôle de mes rêves, je pense. Je vais faire semblant que c'est ce que je suis en train de chanter. Là, je ferme les yeux, imaginez ça.
And my two oldest sisters actually
mes deux sœurs aînées ont étudié le piano classique. Elles sont allées à l'université pour étudier la musique et le piano classique. Et moi, j'étais au clavier. Je n'apprenais même pas la musique, j'étais tout simplement la musique dans le foyer. Et donc, ça a toujours fait partie de ma vie. J'écoutais beaucoup de musiques différentes. Finalement, la musique, c'est ma langue maternelle.
Et chanter, c'était quelque chose que vous faisiez à la maison aussi, parce que vous dites que c'était une famille très catholique. Est-ce qu'il y avait, par exemple, des prières avant les repas, des choses qu'on chantait en famille?
Moi, je n'avais qu'une hâte, c'était d'intégrer la chorale des adultes de l'église que mon père dirigeait. Donc, j'ai rejoint la chorale dès que c'était possible à l'école. Je pense que mon premier spectacle de chorale, c'était en cinquième. Je devais avoir 11 ou 12 ans. Alors, ce qui est très tragique, c'est que j'ai passé des auditions pour la Mélodie du Bonheur avec la chorale de l'école et j'ai été malheureusement rejetée. On m'a refusé le rôle de Gretel. C'était extrêmement cruel, mais je m'en souviens encore jusqu'à ce jour. C'était très dur. Et puis, des années plus tard, je suis retournée au même lycée et je n'attendais qu'une chose, c'était les auditions pour pouvoir intégrer la chorale. Et ces auditions sont tenues une soirée pendant la première semaine d'école. Et moi, j'ai préparé Wouldn't It Be Lovely de My Fair Lady. Et puis, je suis arrivée la première semaine de lycée, déguisée en costume pour passer mon audition. Et c'était pas un joli costume, hein. C'était un costume complètement déchiré d'Eliza Doolittle au tout début de la comédie musicale. Donc je ne ressemblais à rien, j'avais mis le tablier de cuisine de ma mère. J'étais vraiment en haillons, j'ouvre la porte de l'auditorium et je me suis rendu compte qu'on n'était pas du tout censé arriver costumé. Et j'étais complètement mortifiée. Mais je pense que ça joue en ma faveur parce que je pense que le jury a eu vraiment de la peine pour moi et donc ils m'ont accepté. Ils se sont dit, il faut vraiment qu'on lui donne quelque chose. Enfin, je ne pense pas que c'est parce que je chantais bien qu'ils m'ont accepté. J'en avais tellement envie, j'étais tellement à fond et je me souviens m'être demandé, mais pourquoi les autres n'ont pas mis de costume? Ils ne prennent pas les choses au sérieux ou quoi? Je ne sais pas vraiment d'où ça m'est venu, mais Voilà, ça, j'avais ça en moi. Et j'étais aussi la fille qui était tout le temps dans sa chambre à chanter avec sa brosse en guise de micro, avec la musique des big bands, avec Barbara Streisand, avec Jesus Christ Superstar, tout ce que j'entendais à la maison, et je chantais comme ça avec ma brosse devant le miroir, avec toute mon âme.
Et votre mère, musicienne aussi ?
Elle jouait du piano, mais elle était surtout occupée à élever sept enfants. Donc, malheureusement, sa vie, sa carrière d'artiste lui a un peu échappé. Je pense que ça lui a manqué.
Et alors, vous avez appris le piano, alors ?
J'adorais jouer.
C'est quelque chose que vous gardez aujourd'hui ? Vous pratiquez toujours ? Ça vous aide à préparer ?
Non, pas toujours, non, non. But I do it just for fun.
Je le fais vraiment pour le plaisir. Et je m'autorise à être vraiment nulle, parce que je ne suis plus du tout douée. En fait, je l'ai étudié à l'université aussi, mais c'est devenu vraiment trop dur. Et je me suis dit, il faudrait que j'y consacre 7 heures par jour au minimum pour réussir. Et c'était beaucoup trop, j'avais trop d'autres projets en tête, et je m'étais dit, je vais chanter, peut-être que ce sera plus facile de chanter.
Quand vous étiez enfant, vous étiez donc déjà très déterminée, sûre, volontaire, passionnée. C'est votre caractère, indépendante.
Yes, but cloaked in a huge
J'avais
shroud of insecurity.
Un terrible manque de confiance en moi.
So it was all inside. And I felt it
tout était à l'intérieur. Je le ressentais très vivement, très fortement, mais je n'avais pas le courage de le montrer au reste du monde. Donc j'ai fait les choses à ma manière. J'écrivais par exemple des lettres où j'exprimais mon opinion très fermement. Et en fait, je me révélais complètement dans mes performances. J'ai fait par exemple une pièce de théâtre, ma première année de lycée, et je savais exactement quoi faire. Je me sentais chez moi sur scène. Je me sentais que là, j'étais autorisée à faire ce que je voulais. Je pouvais faire sortir de moi tout ce que j'avais à l'intérieur. Mais ça, je n'avais pas le courage de le faire en tant que Joyce à ce moment-là de ma vie. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, j'ai toujours senti que la scène, la musique, a été mon meilleur enseignant dans la vie. Parce que c'est la musique qui m'a appris à m'ouvrir. Alors d'abord en étant prudente devant des gens, et puis avec le temps, j'ai appris à le faire en tant que Joyce, en tant que moi-même.
Le chemin est long pour arriver.
Oui.
Et il n'est peut-être pas fini, on ne cesse de chercher et de grandir.
J'espère. En tout cas, moi, je suis à un moment de ma vie. Alors peut-être aussi que c'est l'époque que l'on traverse, mais j'ai l'impression d'avoir appris tant de choses, d'avoir tellement grandi. Mais j'ai encore l'impression de ne rien savoir sur rien. J'ai l'impression que il y a encore tellement de choses que j'ai envie de vivre, d'apprendre, de comprendre. Et quand je pense à ça, j'ai vraiment encore l'impression d'être une enfant. Et ça, c'est, je pense, quelque chose à préserver et à chérir, surtout à mesure que les années passent. Et je le ressens très vivement. Et ça me donne de l'espoir et une raison de me lever le matin. Chimney tops, the tree.
C'est avec le magicien d'Oz par Joyce DiDonato que se referme le premier épisode des Grands Entretiens avec la Yankee Diva. Réalisation Lionel Quentin, prise de son Arthur Gerbeau, traduction Zena Mokayesh, mixage Marie Le Peintre, attachée de production Marie-Christine Ferdinand. Demain, à la même heure, deuxième épisode de ce portrait. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur l'application Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.